dans les béatitudes. Il y a beaucoup de choses magnifiques.
Louis Schweitzer, pasteur baptiste français, directeur de l'Institut d'études écuméniques à Paris.
Et puis, à la fin, il y a « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Et d'une certaine manière, pour moi, l'assassinat de Martin Luther King n'est pas vraiment scandaleux. Exactement comme Jésus n'arrête pas de nous rappeler « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Je dirais d'une certaine manière, à partir du moment où on veut suivre le Christ de manière radicale, c'est-à-dire en allant jusqu'à déranger les gens, y compris dans les pouvoirs, qu'ils soient politiques ou autres, finalement on court le risque, je crois, inévitablement de la persécution. Donc dans ce sens-là, c'est quelque chose de dramatique, mais pour un chrétien, je dirais, c'est presque les risques du métier, et c'est clair que pour Martin Luther King, c'était des risques acceptés.
I never will forget one night very late.
Martin Luther King, le 27 août 1967 à l'église baptiste de Mont-Pisgah à Chicago.
It was around midnight. And you can have some strange
experiences. Une nuit, je ne l'oublierai jamais, il était tard, aux environs de minuit. Et l'on peut faire d'étranges expériences à minuit. J'avais été retenu par le comité d'organisation. Quand je rentrais, ma femme était couchée et je tombais de fatigue dans mon lit, pensant prendre un peu de repos avant de reprendre le travail le lendemain. Et c'est alors que le téléphone sonna. Je pris l'appareil et j'entendis une horrible voix qui disait en substance « Écoute, sale nègre, on en a marre de toi et de ton merdier. Si dans 3 jours tu n'as pas quitté cette ville, on te fait sauter la cervelle et ta maison avec. » J'avais souvent entendu cela avant, mais je ne sais pourquoi, cette fois-ci, ces paroles m'atteignirent. Je me retournais et j'essayais de dormir, mais en vain. J'étais atterré, égaré. Je me levais pour aller à la cuisine, me faire un peu de café, pensant que cela me calmerait un peu.
Martin Luther King se met à réfléchir, ni la théologie ni la philosophie ne lui apportent de secours. Dans de telles circonstances, sa famille ne lui est d'aucune aide. Il lui reste une solution, le Dieu dont son père lui a parlé.
Tu ne peux plus qu'en appeler à ce quelque chose, à cette personne dont ton père t'a maintes fois parlé. Cette force qui peut t'ouvrir un chemin là où il n'y a pas d'issue. Je me rendis compte alors qu'il fallait que la religion devienne pour moi une réalité. Et que je connaisse Dieu pour moi-même. J'inclinai la tête devant cette tasse de café. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et je me mis à prier. Je priais à haute voix cette nuit-là. Et je dis, Seigneur, me voici. Essayant de faire ce qu'il faut faire. Je pense que j'ai raison. Je pense que la cause que nous représentons est juste. Mais Seigneur, je dois avouer qu'aujourd'hui je suis faible. Je suis en train de craquer, de perdre courage. Je ne peux pourtant pas laisser les gens me voir ainsi, parce que s'ils me voient faible et découragé, eux aussi commenceront à faiblir. Interviens, Seigneur, et donne-moi la force nécessaire pour que je puisse, demain matin, me présenter devant le comité exécutif avec le sourire. À cet instant, j'entends une voix intérieure me dire « Martin Luther, lève-toi. Lève-toi pour le droit, pour la justice, pour la vérité, et je serai avec toi, même jusqu'à la fin du monde. » Oui, je vous le dis, j'ai vu l'éclair, j'ai entendu le grondement du tonnerre. J'ai entendu les forces du mal se jeter sur moi, essayant de s'emparer de mon arme. Mais j'ai entendu la voix de Jésus me disant de poursuivre le combat. Il promit de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul.
Serge Mollat, on vient d'entendre là quelques éléments d'une prédication de Martin Luther King. Alors il est un élément auquel vous tenez beaucoup et que vous tenez à rappeler, que vous rappelez notamment dans votre livre, c'est le fait que King était à votre sens d'abord, avant d'être un disciple de Gandhi, un prédicateur de l'évangile.
Oui, c'est-à-dire que dans toute son enfance, il baigne dans l'église noire, avec son grand-père qui est pasteur, avec son père qui est pasteur, avec son frère et sa sœur, il fréquente depuis gosse l'église noire, les chants, les prières, l'exaltation, le rythme, et cela l'habite. Ensuite, bien sûr, il effectue ses études plus dans le nord, il découvre la théologie et son caractère intellectuel. Il n'empêche que ses racines sont bien d'abord celles de l'Église noire et de cette tradition-là, bien avant Gandhi et toute la réflexion sur la non-violence que Gandhi apportera.
On a l'impression pendant ses années d'études que Martin Luther King est un peu critique à l'endroit de son héritage noir. Il prend quelques distances, il critique un peu le côté très émotionnel des services, des cultes de l'Église de son enfance.
Sans aucun doute, il aura des débats avec son père sur... comment faire vibrer une assemblée, et il y a des trucs presque pour cela, et qui lui paraissent excessifs et manipulateurs, alors qu'il a retenu de ses études d'abord le sérieux, l'exégèse, une sorte de dogmatique. Mais il en viendra peu à peu, et au fond très vite, à partir du moment où le mouvement se commence avec le boycott de Montgomery, il en vient très vite à retourner à ses racines.
Alors il y a quelque chose d'assez surprenant là dans la prédication que nous venons d'entendre. Cette prédication date de 1967 et elle renferme l'évocation de ce qu'on appelle la kitchen experience, l'expérience de la cuisine. Qu'est-ce que c'est que cette expérience que vit Martin Luther King bien plus tôt dans les années 50 ?
Il prononce donc la prédication que nous venons d'entendre en 67 sur un texte de Luc, mais... au cœur de cette prédication, il y met un témoignage. Il parle en je. Et ce témoignage, il est intéressant qu'il revienne alors même que les menaces, les pressions sont énormes. Elles sont au fond analogues à celles qu'il découvre à peine le boycott est lancé en 55. Et ce témoignage remonte à janvier 56, où de retour d'une soirée en église, où justement il a avec d'autres tenté de reprendre courage et de réencourager celles et ceux qui participent au boycott naissant. Revenu chez lui, le téléphone sonne, les menaces se font une fois encore entendre et il n'en peut plus. Alors, dit-il, il a essayé de mettre un peu d'ordre dans tout cela, d'expliquer le mal, d'expliquer la souffrance, d'expliquer les vives oppositions, et les explications ne sont pas suffisantes pour dissiper son angoisse. Et il en revient alors à ce geste, si simple au fond, de la prière, et traverse à ce moment-là, en tout cas le témoignage en fait écho, une sorte d'expérience mystique, où il a l'impression qu'il est appelé à mener un combat pour la justice, et ce qui est peut-être encore beaucoup plus important, c'est que s'il mène ce combat, il ne sera jamais seul. Et il est intéressant que dans la façon dont il raconte les choses, ce sont les mots des vieux spirituels qui viennent sur ses lèvres pour évoquer cette expérience.
On a l'impression aussi, pour reprendre disons une terminologie un peu biblique, qu'il vit une sorte de vocation prophétique.
Tout à fait, tout à fait. King se sent investi d'une mission que désormais à laquelle il veut répondre, et pour vivre, pour répondre à cette mission, il reçoit les forces.
Alors vous venez de nous dire que King fait de manière un peu mystérieuse, là dans sa cuisine, une expérience de Dieu. Quel est le Dieu qu'expérimente Martin Luther King ?
Pour exprimer, je crois, sa pensée, j'aimerais citer une phrase qui revient si souvent dans les chants noirs américains et souvent sous sa bouche aussi. C'est ce Dieu capable d'ouvrir une issue là où il n'y en a pas. Les Noirs disent « God can make a way out of no way ». Il est capable de l'impossible. Et au fond, alors qu'il ne voyait dans un premier temps que le caractère émotionnel de sa tradition, il en découvre la profondeur, mais qui ne s'est jamais ou si peu exprimé de façon rationnelle dans des discours théologiques maîtrisés, dogmatiques. I'm on my way.
On a l'impression que dans la première année de sa vie, finalement, Martin Luther King est très marqué par une sorte de théisme, disons, une présence très forte du Dieu Père, du Dieu Divinité, et que finalement, par la suite, il découvre toute la profondeur d'un Jésus-Christ proche des pauvres, proche des souffrants, proche du peuple noir, quelque part.
C'est vrai qu'il y a une sorte d'affirmation théiste, Dieu au-dessus, Dieu qui contrôle, Dieu qui agit au cœur de l'histoire. La figure du Christ va être vraiment le visage humain de Dieu, et au fond, c'était déjà le cas dans sa tradition, puisque les esclaves ont souvent lu la crucifixion au travers des pendaisons des leurs. Donc souvent on dira que Jésus a été pendu parce qu'on voyait d'autres être pendus. Et Jésus est du côté de celui qui souffre. Alors King reprend cela encore, et là encore il est immergé dans sa tradition, qui donne non seulement expression à sa théologie, mais qui, je crois, la mûrit.
Est-ce que vous diriez qu'il développe à partir de ce moment-là une piété plus christique, plus christocentrique?
Je crois qu'on a un regard très rationnel quand on dit cela. Je suis pas sûr que King aurait séparé si vite le Père, le Fils, l'Esprit. Parce que l'esprit, de toute façon, anime continuellement la communauté noire, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, en tout cas, que son chemin ressemble vraiment à celui du disciple, qui devient un chemin étroit. Il emploie l'expression, il s'agit pour le disciple de porter la croix, et il en prend peu à peu la mesure.
Finalement, au fil de ces années où King médite le message de l'Évangile, on perçoit qu'il prend de plus en plus au sérieux une manière toute concrète de prendre la croix du Christ sur lui, de porter quelque part le joug de l'Évangile, comme il est dit dans certains textes bibliques.
Au début, King est optimiste. Il estime que si, une fois que la ségrégation sera vraiment révélée, ses frères et sœurs chrétiens, blancs compris, avec lui voudront y mettre fin. Or, il se rend compte, au fur et à mesure du temps qui passe, que ça n'est pas si simple. Il va donc peu à peu quitter les voies de l'optimisme pour en venir à un regard plus aigu sur la réalité et ses difficultés. Et ce n'est peut-être pas par hasard qu'il utilisera moins l'expression du rêve, auquel est fait allusion son discours de 63, et qu'il reprendra de plus en plus des expressions prophétiques, Amos, Ésaïe, Jérémie, et à souligner plus encore le parcours de Jésus.
L'appellation d'extrémiste m'a troublé quand je l'ai entendu pour la première fois. Mais quand je me suis mis à examiner la véritable signification du mot, j'ai conclu que peut-être j'aimerais me tenir pour un extrémiste, à la lumière de l'esprit qui fait de Jésus un extrémiste de l'amour. Si vous avez l'impression que je me compare au Sauveur, permettez-moi de vous rappeler que quiconque se proclame chrétien devrait se comparer à Jésus. Je me considère donc comme un extrémiste dans le domaine de cette fraternité humaine que Paul a si bien exprimé quand il a dit « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni personne libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. » L'amour est la seule force sur terre qui peut être donnée ou reçue de façon extrême, sans qu'il en résulte aucun dommage pour celui qui donne, ni pour celui qui reçoit.
Je n'aime pas les nègres.
Pourquoi?
Oh, ben, ils sont tout à fait différents. Ils ne sont... La plupart sont sales. Et puis, très ignorants.
Une interview tirée des archives de la radio suisse romande.
S'ils sont sales, c'est peut-être parce qu'on ne leur donne pas les maisons dans lesquelles ils pourraient habiter.
Ah oui, mais ils ont de jolies petites maisons, mais ils n'essayent pas de les nettoyer.
Et leur ignorance, vous ne pensez pas que c'est parce que les Blancs ne leur ont pas appris grand-chose depuis des siècles?
Oh, peut-être, mais ils ont de beaux collèges ici où ils pourraient apprendre s'ils voulaient. Mais la plupart ne vont pas à l'école. On ne les oblige pas à y aller.
Alors comment concevez-vous ici, où tout de même il y a 65% de Noirs et 35% de Blancs, comment concevez-vous les rapports entre vos deux groupes, Noirs et Blancs?
La plupart des Noirs vivent pour eux-mêmes. Ils n'essayent pas de se mélanger avec les Blancs. Ici à Montgomery, si ça n'avait pas été pour toutes ces manifestations, ici, ils étaient assez tranquilles. Ils ne se sont jamais plaints. Ils n'ont jamais essayé de se mélanger aux Blancs.
Mais est-ce qu'on les aurait laissés se plaindre?
Oh, non, je ne crois pas. Non.
Est-ce qu'on les aurait laissés se mélanger aux Blancs?
Non. Je ne crois pas non plus.
Il faudra tout de même trouver une solution un jour.
Oui, c'est dommage, parce que les Noirs à leur place sont très gentils. Mais en ce moment, je crois qu'ils vont un peu loin.
Qu'appelez-vous aller un peu loin? Simplement parce qu'ils demandent le droit de vote?
Non, ils demandent... Ce n'est pas que le droit de vote, c'est qu'ils demandent de plus en plus. Vous voyez, une fois qu'ils auront le droit de voter, alors ils veulent autre chose et finalement, ils veulent arriver à être à la tête d'Amérique. C'est ce que finalement, ils voudront être président et on sera sous les Noirs.
Est-ce que ce serait si terrible que cela?
Oh, ben, je trouve que ce ne serait pas très bien. À ce moment-là, je partirai. Je ne resterai pas en Amérique.
Martin Luther King aborde la question de l'homme à partir de son expérience concrète, de son expérience de noir. Et c'est vrai qu'il vit dans une société qui est marquée par la ségrégation. Il est victime lui-même de la ségrégation. Alors qu'est-ce que cette expérience concrète entraîne dans sa vision de l'être humain, Serge Mola?
Bien que King soit né dans une famille de la classe moyenne, il est vrai que comme toute sa famille, il est noir et par conséquent, il est d'un côté de la société. Il fait partie de ceux qui n'ont pas les mêmes pouvoirs, qui ne sont pas au pouvoir, qui sont jugés d'abord par la couleur de leur peau. Lorsqu'il est jeune, ses parents, ses grands-parents, quel que soit leur âge, sont encore appelés par leur prénom, par les Blancs. Et il perçoit donc d'emblée que le noir est considéré dans son propre pays comme un être humain inférieur. Et cela le marque profondément, ce qui va le conduire, une fois qu'il réfléchit en pasteur, en théologien, à repenser au fond l'être humain et l'être humain devant Dieu.
Et là concrètement, qu'est-ce qu'il découvre à propos de cette singularité qui est la sienne ?
D'abord, via son église, il découvre que devant Dieu, il n'y a pas des Noirs et des Blancs, mais des êtres humains. Une petite anecdote, au fond, souvent des Blancs qui vont dans une église noire soulignent l'accueil par les Noirs, et cela les frappe, mais je crois que cet accueil est tout à fait particulier, parce que le Noir sait, et toute son histoire le lui dit, qu'il est quelqu'un devant Dieu. Et à l'époque de King, le seul lieu ou l'un des rares lieux où l'on est quelqu'un à part entière, c'est le lieu de l'église. Alors que le blanc, lui, est déjà quelqu'un avant d'entrer dans l'église. Pour King, l'être humain est non seulement dépersonnalisé, mais dépersonnalisé, cela veut dire qu'il ne répond pas à sa vocation, qu'il ne peut pas y répondre parce que tout un système l'empêche de le faire. Et que si lui, noir, est considéré comme un sous-homme, l'autre, le blanc, rate aussi, lui, sa vocation, puisqu'il se croit supérieur, puisqu'il est aveugle à l'altérité du noir. Il y aura d'ailleurs un fameux roman noir américain qui parlera du noir comme un être invisible, puisqu'il est toujours traversé par le regard du blanc.
Sans jamais être vu.
Sans jamais être vu, oui, exactement. Donc King, très sensible à toute cette dépersonnalisation, à toute cette haine qui est générée à l'égard de lui-même, avec du coup un faux regard sur l'autre, mais cela joue aussi dans l'autre sens, cette supériorité du blanc à ses propres yeux et le déni du noir, tout cela est au fond remis en question par la foi, par le statut que le croyant a aux yeux de Dieu.
Quelles sont les références théologiques qui permettent de développer ce propos égalitaire?
Un des credos, enfin un des éléments du credo fondamental derrière tout cela, c'est le fait que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et donc, que c'est pas l'être humain blanc ou noir, mais c'est l'être humain, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Et donc, prendre cela en compte, c'est porter un nouveau regard sur soi-même, sur l'autre et sur la relation entre les deux. Au point que King l'écrira, « Je ne puis être moi-même tant que mon prochain ne peut pas être lui-même. » Ou par exemple, un écrivain remarquable comme James Baldwin dira, « Si tu ne connais pas mon nom, tu ne connais pas le tien. » Comme pour dire que vraiment ma vie et ta vie sont liées. Le ta renvoie au blanc et au noir. Il y a une relation, une interdépendance extrêmement importante entre les deux. Ce qui touche l'un touche l'autre.
Il n'y a pas de véritable identité culturelle qui soit autonome, c'est-à-dire propre au blanc ou propre au noir. Elle se joue toujours en relation mutuelle.
Alors je crois que pour King, ce point est décisif, effectivement. Ça se joue toujours dans la relation avec l'autre. L'identité culturelle est importante, elle est peut-être quelque peu négligée dans un premier temps chez King, mais il va en découvrir peu à peu l'importance. Mais elle n'est pas lue, comme par exemple au sein des musulmans noirs, comme une identité qui pourrait s'autosuffire et du coup se refermer sur elle-même, jusqu'à demander la création d'un État noir, entièrement noir, et sans aucune relation avec le monde blanc. Cela, le King n'y croit pas du tout. Il ne le veut pas, il n'y croit pas, il croit au contraire à cette interdépendance, jusqu'à probablement réfléchir en nouveaux termes à ce que signifie l'intégration. L'intégration pour lui ne veut pas dire devenir blanc dans un monde de blancs, mais rechercher avec l'autre, c'est-à-dire que blanc et noir, ou noir et blanc, auraient à rechercher un système permettant à chaque homme, à chaque être humain, d'être intègre vis-à-vis de lui-même, d'être honnête, d'être vraiment ce qu'il est appelé à être, c'est-à-dire noir s'il est noir, blanc s'il est blanc, avec son histoire et sa culture propre.
King, l'important, c'est d'être en relation véritable. Donc pour lui, le racisme, c'est vraiment le péché. C'est une forme d'idolâtrie.
Oui, parce qu'il a conduit le blanc à se croire supérieur en raison de la couleur de sa peau et à dénier totalement l'autre, le noir. Et ce même racisme a conduit le noir à se détester lui-même, à avoir une haine de lui-même, et bien sûr à constamment tout à la fois haïr celui qui l'a contraint à cela, le blanc, mais en même temps à l'envier, du coup à ne plus voir la différence comme une richesse et ouvrant tout un possible de relation, mais à figer ce qui amène l'un et l'autre à ne plus pouvoir répondre à leur vocation d'être humain devant Dieu.
Si l'on essaie de regarder un peu avec le recul de l'histoire ce qui s'est passé pendant les années 50 et les années 60 au travers du mouvement des droits civiques, est-ce que vous avez l'impression, Serge Mola, qu'il y a véritablement, durant ces années, une sorte de renouveau d'estime de soi du noir américain? Est-ce qu'on peut dire qu'au moment de l'assassinat de Martin Luther King, un nouveau noir a véritablement émergé?
Je crois que c'est un des acquis extraordinaires du mouvement des droits civiques. C'est-à-dire que les Noirs, effectivement, via ce mouvement, ont découvert d'énormes capacités qui étaient en eux, ont découvert que ce n'était pas le blanc qui décidait qui ils étaient, mais eux-mêmes, au fond, et ils portent un nouveau regard sur eux-mêmes. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que vers le milieu des années 60, un slogan comme « Black is beautiful » commence à se répandre, je veux dire. Le noir, c'est beau, n'est-ce pas? Tout à coup, il y a une valorisation de cette, je n'ose pas dire couleur, car le noir, comme le blanc, n'est pas une couleur, mais il y a une valorisation de ce fait, et valorisation qui va trouver tout un champ dans la culture aussi, puisque c'est non seulement la couleur de la peau qui est mise en avant, mais la culture noire, l'histoire noire. Au fond, il y a cette fois-ci un écho qui est non seulement littéraire, comme ça avait été le cas peut-être dans les années 30, avec la Renaissance nègre, ce qu'on appelait la Renaissance nègre autour de Harlem, mais il y a là cette fois quelque chose de plus profond, ou tout à coup, qui va permettre une relecture des racines et une relecture positive de l'histoire, de la culture, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit musicale et autre.
Serge Mola, lorsque Martin Luther King se met à réfléchir à ce qu'est l'être humain, il y a une figure qui demeure fondatrice pour lui, c'est celle de Jésus-Christ. En quoi ?
Oui, à ses yeux, Jésus est une figure fondamentale car elle révèle ce qu'est un homme répondant totalement à sa vocation devant Dieu. Ce que suggère au fond déjà l'évangile lorsque Ponce Pilate dit « Voici l'homme » en parlant de Jésus. C'est-à-dire que Jésus indique quel regard porter sur soi, sur l'autre, sur Dieu, sur le monde, et indique au fond, aux yeux de King, que l'être humain est en devenir, qu'il n'a pas à être figé ou traversé par le regard de l'autre qui l'empêche de devenir ce qu'il est, ou ce qu'il est appelé à être, mais il a justement à devenir, à grandir, ce que déjà la tradition noire confesse depuis longtemps, puisque, par exemple, King citera cette prière étonnante qui certainement date de la période de l'esclavage et est probablement prononcée par un prédicateur formé comme cela,
un peu sur le tas,
sans réelle formation spécifique. Ce prédicateur que King cite disait « Seigneur, nous ne sommes pas ce que nous devrions être, nous ne sommes pas ce que nous voudrions être, nous ne sommes pas ce que nous serons, mais grâce te soit rendue, nous ne sommes pas ce que nous étions. » C'est-à-dire que cette prière transmise par la tradition énonce justement ce devenir de l'homme, et pour un Martin Luther King, elle marque, elle traduit d'une certaine manière très bien ce que l'apôtre Paul, par exemple, signale quand il dit qu'il y a un déjà et un pas encore, un déjà qui est le combat, au fond, la mort du péché dans l'image baptismale, et le pas encore parce qu'on n'est pas encore dans le royaume, il y a encore tout un chemin, un cheminement à effectuer. Ce qui est également frappant dans cette prière et dans la réflexion de King, c'est que pour le prédicateur noir, la vie, le devenir de l'homme dans ce qu'il est appelé à être, se joue dans la relation, ne se joue jamais seul. Il ne se joue pas dans l'autonomie, dans le fait d'être sa propre loi, mais dans la relation où une part essentielle de ce que je suis se reçoit dans cette relation et se construit dans cette relation.